David Greene, né le 16 octobre 1886 à Płońsk, ville polonaise située à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Varsovie. Cette partie du territoire polonais est alors intégrée à l'Empire russe. Son père, Victor Greene, est avocat. Il est membre du mouvement sioniste des Amants de Sion, fondé en 1884. Sa mère, Shandail Friedman, est la fille unique d'un riche propriétaire terrien. David est le quatrième fils survivant du couple. C'est un enfant malingre, menu, fragile. Il est solitaire, taciturne et silencieux. Il ne communique presque pas avec ses frères et sœurs. Il est fréquemment sujet à des vertiges et à des évanouissements. À 11 ans, il perd sa mère lors d'un accouchement. L'épreuve est terrible. Il met longtemps à faire son deuil. Son instruction débute à l'âge de 5 ans, à l'école rabbinique. Il fréquente aussi l'école d'État, où il découvre les grands auteurs de la littérature russe. À l'adolescence, il se détache de la pratique religieuse. Il s'engage alors en faveur de la cause sioniste. Il fonde, avec ses plus proches amis, la société Ezra, dont la vocation est l'enseignement de l'hébreu parlé. David poursuit ses études à Varsovie à l'école technique juive. Il loge chez des parents et occupe un emploi de répétiteur à temps partiel. Il admire l'esprit de la Révolution russe de janvier 1905. David est un militant sioniste convaincu. Il éprouve une grande peine à l'annonce de la mort de Theodor Herzl. Un temps découragé, il trouve une raison nouvelle à son engagement dans la lutte implacable contre le Bund, parti socialiste juif non sioniste qui voit le jour à Vilnius le 7 octobre 1897. Au mi-temps de l'année 1905, il est l'un des membres actifs du mouvement sioniste socialiste, les ouvriers de Sion, Poalei Sion. À la fin de l'été 1906, il s'embarque à Odessa, en direction de la Palestine. Il arrive à Jaffa le 7 septembre. Il ne masque pas sa déception. Des Arabes obèses, accroupis à côté de leurs charrettes, et entre eux quelques misérables boutiques tenues par un juif. Il souhaite rejoindre au plus vite la localité de Petar Tikva, où règne l'esprit des pionniers. Il y travaille dans les orangeries. Il est résolu à cultiver la terre, car c'est l'essence même du sionisme. Il est atteint par la malaria et la faim. Ses convictions politiques restent intactes. En 1906, il intègre le comité central des ouvriers de Sion. Il s'installe en Galilée, à Ségéra. Il est visiblement heureux. « C'est là que j'ai trouvé la terre d'Israël dont j'avais rêvé. Plus de boutiquiers ni de régisseurs, plus de main-d'œuvre venant d'ailleurs, plus d'oisifs vivant du labeur d'autrui. Tous les membres de la colonie sont actifs et jouissent des fruits de leur propre labeur. » En 1910, il devient membre de la rédaction de l'Adout, l'Unité, l'organe du parti Poalei Sion. Il s'installe à Jérusalem pour une année. Il a 24 ans. Il est mince, ses yeux noirs sont vifs, son pâle visage surmonté d'une chevelure bouclée s'orne d'une discrète moustache soignée. Il chausse des bottes et se drape dans une mince cape noire. Il loue une chambre lugubre dans un quartier pouilleux. Sa vie est précaire. Il souffre de la faim. Il adopte un patronyme hébreu. Il devient David Ben-Gourion. En août 1911, il part pour Vienne. pour participer au 3e congrès de l'Union mondiale du Poaleision. Il cultive l'idée de l'ottomanisation. Il considère que les Juifs de Palestine doivent renoncer à leur nationalité et devenir des sujets de la Sublime Porte. Il décide d'étudier la langue turque et le droit. Le 7 novembre, il débarque à Salonique, capitale de la province ottomane de Macédoine. Il se familiarise avec le turc avant de s'inscrire à la faculté de droit de l'université de Constantinople. Sa santé est toujours fragile, pourtant il réussit brillamment ses examens. Ben Gurion est en Palestine au moment où éclate la Première Guerre mondiale. Il apporte son soutien à l'Empire ottoman, à l'encontre des appels en faveur des pays de l'Entente formulés par les dirigeants sionistes établis à Londres et au Caire. Cependant, la répression orchestrée par les autorités ottomanes contre les militants sionistes en Palestine conduit à son bannissement de l'Empire. Il rejoint les États-Unis à bord d'un vieux navire grec, le Patrus. Il contribue à la rédaction de deux ouvrages, Isikor et Eretz Israël. Il est infatigable. Il sillonne le territoire américain à la rencontre des sections du mouvement sioniste. Il expose sa doctrine lors du congrès du Poaleision qui se tient à Cleveland. Son intervention est appréciée. Le 5 décembre 1917, Ben Gurion épouse à New York l'infirmière Paulina Monbaz. Le jeune marié s'oppose à la déclaration Balfour, formulée le 2 novembre, qui dépasse les espoirs des sionistes les plus optimistes. Le gouvernement de Sa Majesté britannique verra favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et déploiera tous ses efforts pour en faciliter la réalisation. Ben Gurion est pourtant la seule voix discordante. L'Angleterre, écrit-il, ne nous a pas rendu la Palestine. Même si tout le pays était acquis par l'Angleterre, il ne deviendrait pas le nôtre du fait que la Grande-Bretagne y a consenti et que les autres pays ont donné leur accord. Un peu plus loin, il poursuit, « L'Angleterre a effectué un acte magnifique. Elle a reconnu notre existence en tant que nation politique et a accepté notre droit sur le pays, mais seul le peuple hébreu peut transformer ce droit en fait tangible et lui seul doit, par son corps et par son âme, par sa force et son capital, construire son foyer national et mener à bien sa rédemption nationale. » Ben Gurion soutient désormais les efforts de guerre de l'Entente. Le 26 avril 1918, il s'engage dans la Légion juive. Un mois plus tard, il prête serment au consulat britannique de New York. Le lendemain, il part pour le camp d'entraînement de Windsor au Canada. Le 22 juillet, il débarque en Grande-Bretagne. Enfin, le 6 novembre, à quelques jours de la fin du conflit, il arrive à Tel Aviv. Au début de l'année 1919, il fonde un nouveau parti politique, l'Union du Travail, Ahdut HaAvoda, qui exige des garanties internationales pour l'établissement d'un État juif indépendant sur la terre d'Israël, qui luttera pour la création d'une majorité juive dans le pays sous les auspices d'un représentant de la Société des Nations. Ben Gurion voit loin. Il souhaite regrouper tous les travailleurs juifs en Palestine dans une seule et unique organisation. le 17 novembre 1919, le militant qui est encore soldat est rejoint à Jaffa par son épouse, qui lui présente sa fille, Géoula, née 14 mois plus tôt. Bientôt libéré de son obligation militaire, il part, au début du mois de juin 1920, pour Londres, dans l'espoir de nouer des liens avec le parti travailliste. Dans la capitale britannique, Paola donne naissance à un fils nommé Amos. La famille s'élargit. Nous retrouvons l'évocation de la vie de David Ben-Gourion, le père d'Israël, dans un instant après une pause musicale. C'est Édith Piaf qui chantait en 1961 Exodus, adaptation de la chanson du film Exodus, composé par Ernest Gold.
Ils sont partis dans un soleil d'hiver. Ils sont
écoutez passé, présent, consacré aujourd'hui à David Ben-Gourion. Le 24 avril 1920, la conférence de San Remo confie à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, près de 35 000 juifs accomplissent leur alia. Ils sont pour la plupart de nationalité russe et proches des idéaux socialistes. Ils fuient les massacres perpétrés en Russie par les armées blanches durant la guerre civile qui suit la révolution bolchevique. Cette vague d'émigration est favorisée par l'agence juive. Elle est complétée par l'arrivée de nombreux juifs polonais. Ces nouveaux immigrants contribuent à la mise en valeur de la terre d'Israël. Les kibboutz se développent, des routes sont construites, des entreprises sont créées. Au terme de l'été 1921, Ben-Gourion est élu au secrétariat de la Histadrout, la Légion du Travail, le principal syndicat des travailleurs juifs de Palestine fondé à Haïfa en décembre 1920. Il en installe le siège à Jérusalem. Il envoie l'essentiel de sa maigre rémunération à son épouse qui vit à Płońsk, en Pologne, avec ses deux enfants. La famille est enfin réunie au printemps 1922. Ben-Gourion témoigne d'une grande admiration pour Lénine, qu'il considère dans son journal comme le prophète de la révolution russe. Il est grand, cet homme. Son regard est pénétrant. Il voit les choses à travers un miroir pur qui n'est obscurci par nulle formule, ni aphorisme, ni rhétorique, ni dogmatisme. Son œil est vif et porte loin. Son âme est droite. Il brave tout interdit, reste fidèle à son objectif, ignore les concessions et l'indulgence, déborde les extrémistes, ira jusqu'à franchir un bourbier en rampant pour parvenir à son but. Le 5 janvier 1930, Ben-Gourion est l'un des fondateurs du Mapai, le parti ouvrier du pays d'Israël, qui rassemble les différentes tendances socialistes. Au sein du mouvement sioniste, le courant socialiste de Ben-Gourion s'oppose maintenant vigoureusement aux révisionnistes de Vladimir Jabotinsky. La lutte est sans concession. Le 16 juin 1933, un éminent dirigeant socialiste, Haïm Orlozorov, est mystérieusement abattu à Tel Aviv. L'assassinat est attribué à la tendance extrémiste des révisionnistes. Le monde juif est bouleversé. Quelques semaines plus tard, Ben-Gourion remporte près de 45% des suffrages lors du 18e congrès sioniste. Les révisionnistes ne réunissent que 16% des voix. Ben-Gourion accède à l'exécutif, tout en demeurant secrétaire général de son syndicat. Il combat avec force le Bétard et déclare « Rien n'est plus ridicule ou plus criminel que de lutter avec des moyens constitutionnels contre une force qui est absolument anticonstitutionnelle. Dans notre combat contre le Bétard, il est impossible de se contenter de sermons. Nous devons mettre sur pied une force organisée pour lui tenir tête. » Il cherche aussi une réconciliation avec les nationalistes arabes. Cette préoccupation n'est pas nouvelle. À l'automne 1921, il adressait déjà une mise en garde à ceux qui cultivaient, je cite, « l'illusion que le pays d'Israël était une terre inoccupée et que nous pouvons y faire tout ce que nous voulons sans tenir compte des habitants ». Le 15 mars 1939, Ben-Gourion participe à la clôture de la conférence de Londres avec les représentants du gouvernement britannique. C'est un échec. Cependant, il affiche une foi inébranlable en l'avenir du peuple juif. Dans une lettre aux membres de l'exécutif restés à Jérusalem, il se montre optimiste. « Nous sommes sortis de la conférence de Londres battus, mais non vaincus. Cette fois, nous avons placé dans notre jeu une nouvelle carte qui a rempli son rôle. Notre force en Palestine. Les Anglais n'avaient jamais entendu cet argument auparavant et avant les négociations de Londres, j'imagine qu'ils n'en tenaient pas compte. J'estime que c'est là la principale, sinon la seule, nouveauté dans nos conversations avec les Anglais. Le gouvernement a découvert qu'il existe une puissance juive en Palestine. Le lendemain, il révèle les objectifs de la lutte sioniste en affirmant qu'il n'est d'autre issue qu'un État hébreu. Le gouvernement britannique s'oppose ouvertement aux sionistes. Le 17 mai 1939, il publie un livre blanc rassemblant ses mesures répressives. Il prévoit dans le délai d'une décennie la constitution d'un État palestinien unique et stipule la limitation à 75 000 du nombre des arrivants juifs pour les 5 prochaines années, à savoir 10 000 par an et 25 000 visas accordés à titre exceptionnel pour des réfugiés. Au-delà de cette période transitoire, elle sera soumise à l'approbation des autorités arabes. En réponse à ce qui est considéré comme une véritable provocation, Ben-Gourion est convaincu de la nécessité de s'engager dans l'action terroriste. Il prépare la Haganah à combattre la nouvelle politique britannique. Il crée des groupes spéciaux d'intervention. Il prévoit également le débarquement des immigrants sous protection militaire. Ce périlleux chemin du sionisme militant est validé par les 603 délégués réunis du 9 au 11 mai 1942 à l'hôtel Biltmore à New York. La résolution adoptée précise les revendications sionistes pour l'après-guerre. Premièrement, les portes de la Palestine seront ouvertes à l'immigration juive. Deuxièmement, l'agence juive sera autorisée à gérer l'immigration en Palestine et à mettre en valeur les régions désertiques, y compris les zones dépeuplées et incultes. Troisièmement, la Palestine deviendra un Commonwealth juif intégré dans la nouvelle structure du monde démocratique. En 1944, l'Irgun passe à l'action sous l'autorité de Menachem Begin, un combattant pugnace et audacieux. Des postes de la police britannique et des bureaux des services de renseignement sont attaqués. Des officiers sont tués. Des armes sont volées. Des voies ferrées sont sabotées. Des ponts sont dynamités. Le 22 juillet 1946, à Jérusalem, l'explosion de l'hôtel King David, siège de l'état-major britannique, fait 91 morts et 46 blessés. Le coup est rude. Le président américain Harry Truman incite Londres à la modération. Le 15 mai 1947, l'Organisation des Nations Unies propose de mettre un terme au mandat britannique et décide le partage de la Palestine en deux États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, Jérusalem étant placée sous tutelle internationale. Le projet de partage est adopté le 29 novembre. Des manifestations de joie éclate à Tel Aviv, à Haïfa et dans les quartiers juifs de Jérusalem. Le 14 mai 1948, à la veille de la fin du mandat, les derniers soldats britanniques quittent la Palestine. à Tel Aviv le jour même à 16h dans un immeuble du boulevard Rothschild sous le portrait de Theodor Herzl et devant 200 personnes, Ben-Gurion proclame la création d'Israël. Il en devient le premier ministre. Le lendemain, l'Égypte, la Syrie, la Transjordanie, le Liban et l'Irak lancent leurs troupes à l'assaut de l'État juif. En janvier 1949, au terme de la guerre d'indépendance, Israël victorieux augmente sa superficie de 6000 km². Son territoire est désormais géographiquement cohérent. Le 7 novembre 1953, Ben-Gurion, fatigué, quitte ses fonctions de Premier ministre. Il s'installe au kibboutz de Ste Boker, dans le désert du Negev. Il est visiblement heureux et déborde de vitalité. Il retrouve les travaux de la terre. Mais les difficultés politiques rencontrées par son successeur, Moshe Sharet, l'obligent à reprendre du service. Le 21 février 1955, il retrouve le ministère de la Défense. Le 12 août, il accepte de former un nouveau gouvernement. À l'automne 1956, il gère la crise de Suez. 2 ans plus tard, il conclut un pacte secret avec la Turquie, l'Iran et l'Éthiopie qui redéfinit les équilibres du Proche-Orient. Il lance le programme atomique israélien et quitte définitivement le pouvoir. Le 16 juin 1963, il est alors remplacé par Lévi Eshkol. En 1971, Ben-Gurion sort de sa retraite de Ste Boker pour être célébré par la nation israélienne à l'occasion de son 85e anniversaire. Il prononce un vibrant discours à la Knesset. Au crépuscule de sa vie, il se rapproche de la religion. Il décède le 1er décembre 1973 des suites d'une hémorragie cérébrale. Il est inhumé à Ste Boker aux côtés de son épouse, décédée le 29 janvier 1968. Selon sa volonté, la cérémonie funèbre se déroule dans le plus parfait silence.